En France, il y a un événement qui s'appelle le Festival de la musique. Donc, tout le monde sort dans la rue, tout le monde danse toute la nuit, tu sais. Puis en sortant du palais, on voyait des jeunes qui dansaient sur la toune qui était la chanson thème de la campagne d'Adidas. Puis là, on voyait que c'était vraiment dans la culture. On avait vu qu'on avait créé une marque qui était rentrée dans la culture, vraiment le street culture des gens. Puis ça, c'est pour moi, c'était le plus grand plaisir parce qu'on a tout changé, mais sans nécessairement rien gagner.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 130e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Selon vous, qu'ont en commun Adidas, le Cirque du Soleil ou encore les Raptors de Toronto? Eh bien, sachez que ces trois organisations de renom ont toutes travaillé avec la même agence de communication, la très connue Sidley. Et aujourd'hui, sur le 130e épisode de Hypercroissance, on a la chance de s'entretenir avec son fondateur, Philippe Meunier, actuel chef de la création et également chairman chez Sidley. Philippe, qui va bientôt fêter les 30 ans d'anniversaire de l'entreprise, nous raconte aujourd'hui le développement extraordinaire que l'entreprise a connu depuis les années 90 afin d'atteindre près de 1000 employés au moment où on se parle. Habitué des Lions de Cannes, événement prestigieux où les plus grands créatifs au monde se rassemblent à chaque année, Philippe nous explique également aujourd'hui les raisons pour lesquelles l'entreprise a été acquise en 2015 par le groupe japonais Akuodo DY Holdings. Bref, un entretien totalement fascinant, spécifiquement pour un propriétaire d'agence numérique comme moi. Sans plus attendre, ma discussion avec Philippe Meunier. Philippe Meunier, vous êtes le cofondateur, chef de la création ainsi que chairman chez Sidley, une agence créative qui emploie plus de 900 employés à travers ses bureaux de Montréal, Paris, Toronto, Seattle, Londres, Los Angeles et New York. Lancée en 1993, l'entreprise qui se nommait autrefois Diesel a su attirer des clients de renom à travers les années tels que Adidas, le Cirque du Soleil, les Raptors de Toronto et plusieurs autres entreprises reconnues à l'international. Philippe Meunier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci, bonjour Antoine, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Et Philippe, avant de discuter de l'évolution de Sidley à travers les années ainsi que de sa belle percée à l'international, pourrais-tu expliquer brièvement à l'audience aujourd'hui ce qui distingue Sidley des autres agences de création?
En fait, c'est une belle question, mais je pensais que tu m'aurais posé la question « D'où vient le nom Sidley? » Mais ça, on va revenir plus tard là-dessus.
Exact.
Mais en fait, qu'est-ce qui nous distingue? C'est sûr que quand tu regardes toutes les agences de créativité au travers le monde, aujourd'hui, on peut couvrir beaucoup de terrain. Mais au départ, Sidley, notre souhait, c'était de devenir une boîte de création multidiscipline. Donc, j'explique, dans le temps, lorsqu'on était en 92, il y avait ce qu'on appelle les agences de publicité. Et puis, tranquillement, pas vite, il y avait les petites boîtes, les petits studios de design. Et puis, pas longtemps après, l'Internet est arrivé. Donc, il y avait toutes les boîtes de .com, puis toutes les boîtes des studios de sites web et tout ça. Nous, on a toujours vu de la créativité comme étant une grande discipline, mais une multidiscipline. Parce que la magie créative se passe entre les disciplines. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque un client a un contact, une expérience de marque avec un emballage, avec une publicité à la télévision, avec un tweet, avec un pre-roll, avec un film, avec un espace, un magasin? Tout ça, ce sont des moments de créativité avec une marque. Donc, Sidley, on se spécialise à créer une expérience de marque dans tous ces points-là. Donc, c'est vraiment embrasser la multidiscipline pour faire en sorte que l'histoire de la marque soit la plus intéressante dans tous ces points de contact.
Puis, Philippe, on peut voir que l'entreprise va bientôt fêter son 30e anniversaire ou a fêté son 30e anniversaire parce que je n'étais pas tellement certain. On voyait que la date de fondation, c'était 93. Sur ton LinkedIn, on voyait que tu as commencé à 92. Donc, on dirait que ça devrait arriver assez bientôt, le 30e.
Ouais.
Puis, amener une entreprise à passer à travers les décennies, comme vous l'avez fait, c'est pas donné à tout le monde. On peut également se rendre compte que l'organisation a été lancée avec toi et Jean-François Bouchard à sa tête. Peux-tu nous ramener, Philippe, aux premières années de votre fondation afin que nos auditeurs puissent bien comprendre la genèse derrière l'entreprise qui s'appelait autrefois Diesel?
Ouais. En fait, c'est drôle parce que lorsqu'on retourne en 1992, imaginons Montréal, le Québec, on était sur le bord de référendum, il y avait beaucoup de tensions, les grandes marques quittaient Montréal, tout le monde s'en allait à Toronto, l'économie était pas tellement bonne. Si on se promenait sur la rue Sainte-Catherine, on voyait beaucoup de locaux vides. Alors, c'était pas facile pour notre génération de se trouver un emploi. Alors, moi, je graduais en design graphique de l'UQAM. Jean-François graduait en droit à l'Université d'Ottawa. On est des collègues, on est des amis, en fait, du secondaire. Et puis, on s'est ramassés. Lui faisait des petits clients de son côté. Moi, je faisais des petits clients de mon côté. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi qu'on se met pas ensemble? Puis, on n'essaye pas de faire des choses ensemble. Fait que d'où là est venu le 1992. Donc, on a commencé un petit peu à bisouner ensemble. Et puis, comme dirait si bien Jean-François, c'est en gossant qu'on devient gosseron. Alors, on a vraiment gossé dans ces premières années-là. Et puis, jusqu'au jour, on n'était pas capable de se trouver un emploi. Les gens voulaient pas nous embaucher. Donc, c'est pour ça qu'en 93, on a décidé de partir notre propre business, Diesel. Pourquoi Diesel? C'est que Rudolf Diesel est l'inventeur du moteur Diesel. Il a révolutionné l'industrie. Alors, on était inspiré par son histoire. Donc, on s'est dit, nous, on va être une agence qui va révolutionner l'industrie. Mais on est une agence de demain. Donc, on sera pas, ça sera pas nos prénoms qui vont être sur la porte. Ça va être un nom qui représente une idée, qui représente le futur, qui est pas français, qui est pas anglais, qui est vraiment de toutes les langues. Et puis, c'est comme ça qu'on est parti sur l'idée de Diesel. Alors, c'était un départ. Et oui, effectivement, ça fait 30 ans bien sonné que ça roule. Tu sais.
Et je pense que là, le moment se prête. Pour quelle raison maintenant vous avez transformé Diesel à Sidley?
Encore là, on retourne dans le temps, ça allait bien en 92, on commençait à être une boîte quand même assez connue, je dirais, au niveau local et même national. Et à un moment donné, on s'est mis à gagner des prix à l'international. On connaît le Festival de créativité de Cannes, où la première fois qu'on a gagné un Lion, les gens ont appelé la compagnie de vêtements Diesel Jeans pour dire « Vous avez gagné un Lion, vous devez vous présenter ». Fait que là, on s'est dit, bon, je pense qu'on commence à avoir vraiment un problème de branding parce qu'il y avait la marque Diesel en Italie qui commençait à prendre beaucoup d'ampleur en Europe. Et puis, nous, notre petite marque au Québec. Et puis, soudainement, les gens avaient confusion. Les gens nous envoyaient des portfolios en design de mode. Moi, je trouvais ça super le fun. Mais on fait pas ça dans la vie. Alors, il y avait un conflit. Il y avait un conflit de marque. Alors, on s'est dit, on est sur le bord de prendre un envol international. On peut pas se battre contre une grosse marque comme ça italienne. Fait qu'on s'est dit, on laisse tout tomber à terre, on laisse Diesel tomber, on ramasse les lettres et c'est devenu un anagramme et c'est devenu Sidley. C'est Martin Villeneuve, le frère de l'autre, Denis, qui nous est arrivé avec cette idée-là. Puis quand il m'est arrivé dans le bureau avec ça, j'ai dit, Martin, c'est génial, c'est une réinvention de nous-mêmes pour demain. Alors, depuis ce jour qu'on s'appelle Sidley, il y a encore des gens qui appellent à l'agence qui veulent parler à M. Lee ou M. Sid, mais c'est drôle.
Ah, c'est une belle histoire. Puis, on va continuer un petit peu dans cette histoire-là parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui est arrivé avec votre organisation. Et je ramène un petit peu l'audience aujourd'hui. En 1999, on peut voir que vous décidez de fusionner avec Stratego Media, une agence dirigée à ce moment par Martin Gauthier et Daniel Fortier. Ces deux hommes feront d'ailleurs partie de votre entreprise par la suite pour quelques années. Qu'est-ce qui vous a poussé juste avant le début des années 2000 à compléter cette première acquisition, même cette première fusion?
En fait, ce qui est arrivé, c'est que au départ, Jean-François et moi, on était comme maman puis papa dans l'agence. T'sais, tout allait bien. On a fait ça pendant plusieurs années. À un moment donné, comme je dis toujours, il y a l'oncle le mononcle des États qui est arrivé, Bertrand Cesvet. Bertrand est arrivé le troisième associé dans notre histoire, un associé qui a débalancé la façon de voir les choses. Et puis, c'est vraiment l'arrivée de Bertrand qui a fait en sorte qu'il nous a poussé de notre zone de confort puis qui nous a amené à nous poser des questions par rapport au digital, par rapport au futur, par rapport... C'est toutes des questions qu'on s'est posées avant. On dit l'acquisition, mais c'est plus une fusion qu'on a faite en réalité parce que eux autres, ils se disent qu'on a fusionné, puis nous autres, ils vont dire qu'on a fait une acquisition, mais en tout cas. Mais bref, c'est que, tu sais, quand tu te mets à travailler avec des gens, puis il y a une chimie, puis ça va bien. Puis là, tu te dis, on fait des projets, on en fait un deuxième, on en fait un troisième. Puis à un moment donné, ça va tellement bien qu'on s'est dit, hey, on peut-tu se marier ensemble? Donc, c'est ce qu'on a fait. On l'a célébré, on a fait un vrai mariage. Il y a des photos à l'appui. On s'est déguisé en mariés et en... Jean-François était déguisé en marié. En tout cas, c'était drôle. On s'est finalement mariés. Et puis, Martin et Daniel sont encore avec nous aujourd'hui. C'est des collègues de travail extraordinaires. Et puis, c'était le départ d'une nouvelle vision pour Sidley. Et puis, c'est la preuve que je pense que des bonnes relations de travail passent des individus, prime abord. Jean-François et moi, au départ, sans se connaître, on était des amis. Bertrand, qui est venu avec nous, c'était des amis. On s'est déplacé dans une autre zone de confort. Après ça, Martin. Après ça, Daniel. Après ça, Chris, François. Plein de gens se sont joints à nous. Et puis, c'est comme ça que ça s'est parti. T'sais.
Et tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, vous avez gagné plusieurs prix à travers les années. Et à travers le temps, on peut voir que ça devient quasiment votre marque de fabrique. Les Lions de Cannes, juste en 2014, je crois que vous en avez gagné 15. Et tu disais dans un entretien d'ailleurs que je pense qu'au moment que vous avez gagné tous ces prix en 2014, l'agence Sidley à Paris était l'agence qui avait gagné le plus de prix à travers la France au complet. Ça faisait quasiment un Lion de Cannes pour deux employés à l'intérieur de l'organisation. Vous gagnez également des super gros mandats avec des clients de renom. Ma question pour toi, Philippe, avec tous ces projets et ces distinctions à travers les années, selon toi, qui est vraiment la personne derrière la création chez Sidley, ça a été quoi le projet que toi, personnellement, ou plutôt les projets peut-être, que tu as aimé le plus travailler et que tu pourrais partager un petit peu avec notre audience aujourd'hui?
Oh, il y a tellement de projets qu'on a fait, puis de folie que j'ai adoré, mais je pense que celle qui a créé le plus d'impact. Et puis, c'est la campagne où on a gagné le moins de prix. C'était la première campagne qu'on a faite avec Adidas, la campagne Adidas Original. Pour moi, c'est une campagne où on a pris le monde publicitaire par surprise avec une approche vraiment multiplateforme. Et les gens voyaient cette création-là, puis ils ne savaient pas trop quoi faire avec. Ça sortait un petit peu des codes publicitaires qu'on s'attendait de voir. Et puis, on n'avait rien gagné cette année-là à Cannes, je me rappelle. On était toute l'équipe, on sort du palais, un petit peu la face à terre, tu sais. Puis en France, il y a un événement qui s'appelle le Festival de la musique. Donc tout le monde sort dans la rue, tout le monde danse toute la nuit, tu sais. Puis en sortant du palais, on voyait des jeunes qui dansaient sur la toune qui était la chanson thème de la campagne d'Adidas. Puis là, on voyait que c'était vraiment dans la culture. On avait vu qu'on avait créé une marque qui était rentrée dans la culture, vraiment le street culture des gens. Puis ça, c'est pour moi, c'était le plus grand plaisir parce qu'on a tout changé, mais sans nécessairement rien gagner. Et puis, c'était le départ d'une longue époque de créativité chez Sidley. Plusieurs créatifs ont été impactés dans ce processus de création-là. Et pour moi, ce jour, ça reste encore une des plus belles choses qu'on a créées.
Et vous êtes derrière également, je suis un fan de sport là ici, on voit que vous êtes derrière les campagnes des Raptors de Toronto. C'est vous qui avez imagé un peu l'idée de We the North, là, tout ce qui s'est déroulé avec les Raptors de Toronto à l'époque. Là. Est-ce que c'est vous qui avez travaillé là-dessus?
Ouais, mais pas moi personnellement, je suis pas partout. Mais oui, effectivement, c'est Sidley qui a créé ce qu'on appelle le 3 secondes là de ouais. La raison d'être là des Raptors, We the North. Les Raptors lorsqu'ils sont venus cogner à la porte de Sidley, sont venus on aimerait ça avoir un logo, on aimerait ça on est une équipe de basketball à Toronto, c'est pas connu le basket. T'sais. Puis nous on a vu ça puis on s'est dit c'est plus qu'un logo, c'est vraiment une communauté qu'on doit bâtir alentour du basket à Toronto. Parce que Toronto est connu pour le baseball, est connu pour le hockey, mais vraiment pas connu pour le basket au Canada. T'sais. Alors, on a approché ce projet-là beaucoup plus comme une plateforme de communication. Et puis, on a créé We the North. Et c'est drôle parce que We the North, le logo We the North, a été créé vraiment avec du duct tape. Vraiment été créé pour que les fans puissent le reproduire par la suite. C'était voulu, c'était fait comme ça. C'était... Il y a un film qui a été créé en disant que oui, the North, on n'est pas du Sud, on n'est pas de l'Est, on n'est pas de l'Ouest, tu sais, on est du Nord. Vous connaissez pas c'est quoi le Nord. Le Nord, c'est ce qui va venir vous chercher, là, tu sais. Alors, tu sais, c'est des choses que je pense qui ont été mythiques pour une histoire créative d'une boîte comme Sidley. Il y a eu des moments comme ça, charnières. Cirque du Soleil en était une. Les Raptors en était une. Adidas en était une, Red Bull en était une. Donc, c'est tous des moments pour nous qui sont des moments charnières, qui changent la façon de faire, voir les choses. Et puis, je pense que les Raptors, hein, c'est une grande pour nous à Toronto.
Puis, le Cirque du Soleil, ça a été un partenaire de taille pour Sidley, je pense, à travers les années, même qu'ils sont devenus, je crois, et corrige-moi si je me trompe, actionnaires minoritaires dans l'agence à travers les années.
Oui. Ben, en fait, tu sais, quand je parle de relations, de travail avec des associés, c'est un peu cette histoire-là au Cirque du Soleil, parce qu'on a gagné notre premier mandat au Cirque, qui était un site web. En fait, c'était de faire le site web du Cirque. Et puis, on avait des affinités créatives avec cette communauté créative-là de Montréal. Puis, ce qui a fait en sorte que projet par-dessus projet, à un moment donné, là, on s'est ramassé à faire un spectacle, deux spectacles, trois spectacles. Puis là, on était dans les équipes de création. Puis là, on faisait de la direction artistique. Puis on faisait du branding. Puis on faisait plein de choses. Puis à un moment donné... Moi, personnellement, ça a changé complètement ma vision de la créativité. Je dois dire que le Cirque du Soleil, Guy Laliberté, Robert Lepage ont été des gens qui ont changé ma façon de voir la créativité. C'est par ces expériences-là que j'ai ramené ça dans un univers plus commercial, parce qu'eux sont vraiment dans un univers artistique. Mais ce qui a fait en sorte que la magie de Sidley, la magie créative, vient vraiment des racines de travailler en multidiscipline avec plein de talents de partout au travers le monde. Ça vient vraiment du Cirque du Soleil, tu sais. Et oui, à un moment donné, à force de faire des projets, à un moment donné, on s'est dit, ben pourquoi qu'on se marie pas? Tu sais, fait qu'ils sont devenus actionnaires. Ils sont devenus actionnaires de Sidley en partie. Et puis, ils ont été des super bons partenaires. Et puis, on a fait de la belle business ensemble jusqu'au jour où on a vendu 100% des actifs de l'agence à un groupe japonais qui est le groupe Q.
Puis on va en parler dans quelques minutes de ça, mais avant de rentrer là-dessus, j'ai vraiment l'impression que je suis dans ta zone de génie ici, parler de création. Est-ce que tu es capable de nous parler de quelques anecdotes peut-être du Cirque du Soleil, parce que ça a l'air d'être peut-être un client qui a marqué vraiment ta carrière là, chez Sidley. Est-ce qu'il y a certaines anecdotes qu'on peut partager avec l'audience?
Oui, puis c'est faut comprendre que le Cirque, c'est de la passion même. Là, quand tu rentres dans une équipe de création au Cirque, lorsqu'on travaille sur un spectacle, bon, il y a des talents de plein de disciplines alentour d'une table. Il n'y a vraiment pas d'égo. Tout est partagé. Tout est challengé aussi. Mais c'est vraiment la qualité des gens qui sont dans la pièce qui fait la différence. Mais au-dessus de ça, il y a le désir de faire quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui est unique. Puis ça c'est vraiment porté par le leadership de Guy Laliberté. Parce que Guy, souvent, on rentre dans les meetings et puis c'est un gars qui a un instinct de création extraordinaire. Il rentrait, il était là. Non, oui, ça, j'aime ça, tu sais. Puis là, des fois, il me dit, OK, Phil, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais demain? Sors dans l'avion, on s'en va à Londres, on s'en va présenter sur Beatles. Puis là, c'est comme, ouais, quoi? Que là, du jour au lendemain, tu te ramasses dans un avion puis tu te ramasses devant le groupe des Beatles pour présenter des choses. Tu sais, Ça arrête pas. C'était une époque pour nous où on rentrait dans les théâtres à Vegas, puis toutes les équipes du Cirque, puis tout le Québec travaillait là, puis tout le monde disait « Hey, salut Phil, comment ça va à Montréal? Il fait du fret? » Mais la fierté de voir la créativité québécoise rayonner à l'extérieur, ça, c'était des moments de magie du Cirque. Et puis, on va toujours être redevant envers eux, c'est sûr et certain. T'sais.
Wow! Et on peut voir également, tu as utilisé le terme multidisciplinaire quelquefois dans l'entretien aujourd'hui, on peut voir également que vous avez ouvert votre horizon à d'autres sphères de service à travers le temps. Une qui me vient en tête ici, c'est Sidley Architecture. Peux-tu nous dire un petit peu aujourd'hui d'où est-ce que c'est venu cette idée d'aller dans cette sphère de service?
Ben, en fait, les marques sont venues au monde dans les journaux au début. Après ça, sont venues à la télé, lors de l'apparition de la télévision, tu sais, les annonces télé, comme on appelle. Après ça, les marques se sont déplacées vers l'écran de nos ordinateurs, dans les sites web, dans tous les contenus, dans YouTube, ces choses-là. Après ça, ils se sont déplacés dans nos téléphones, un autre écran. Et puis là, à un moment donné, on s'est dit, oh, les marques s'en vont où? Les marques de demain vont se ramasser où? T'sais? Alors, on s'est dit, les marques vont quitter l'écran. Les marques vont arriver dans le monde physique parce que la technologie va être tellement omniprésente que les marques vont être capables de vivre dans un environnement physique, dont l'expérientiel. Fait que c'est un petit peu notre expérience avec le cirque, un peu le côté mise en scène, théâtre, vivre une expérience live avec le cirque qui nous a influencé à amener des expériences de marque à l'extérieur des écrans. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je fais des présentations à mes équipes de création, enfin à toute l'agence. Je dis là, les marques s'en vont vers le monde virtuel. Alors là, il faut être capable de créer des expériences de marque dans un univers virtuel où on va passer du virtuel au réel sans barrière. Et puis, cite-moi là-dessus, mais je suis convaincu que dans quelques années, on préfère la même entrevue, mais on serait probablement en virtuel dans plein d'univers et tout ça. T'sais. Fait que les marques ne cessent pas d'évoluer. Les marques veulent toujours créer des expériences pour les consommateurs. Et c'est à nous de savoir où on doit se positionner comme créateur pour être capable de venir capter ces moments de magie-là. T'sais.
C'est le médium qui change. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai l'impression que vous êtes capable de vous adapter, de vouloir bien évoluer à travers le temps selon ces différents médiums-là. Et bon, on en a parlé un petit peu plus tôt de création, de comment que ça se matérialise un petit peu à l'intérieur de Sidley. Et je t'écoutais dans un entretien que tu as donné, je pense que c'était en 2014, que tu donnais avec InfoPresse. C'est assez intéressant, les images que tu disais. Tu disais que Sidley, c'est un peu comme un corps. Il y a des cellules qui peuvent changer, mais l'important, c'est d'avoir les bonnes cellules, la bonne fondation, afin de s'assurer que l'entreprise grandisse dans la bonne direction. Maintenant, vous êtes rendu à plus de 900 employés, plusieurs services au sein de l'agence également. Comment on arrive à bien garder une culture, un corps qui s'en va dans la bonne direction, qui a une bonne fondation? Parce que là, ça a dû être difficile de toujours garder la bonne direction avec autant de nouvelles personnes qui intègrent l'entreprise au cours des années.
Oui, puis c'est probablement la chose la plus importante dans n'importe quelle entreprise, c'est la culture. Dans notre cas, nous, c'est la culture créative. Puis la culture créative vient d'un ADN particulier. Puis je dis pas que c'était l'ADN parfait de Philippe et Jean-François et Bertrand, pas du tout. C'est un ADN qui s'est ramassé à travailler ensemble, mais alentour de ça, plein de cellules se sont créées. T'sais. Puis comme un corps humain, il y a des cellules qui meurent, il y en a d'autres qui sont régénérées. Mais on part toujours de la même ADN. Par contre, ça, c'est facile de faire ça dans un bureau ou dans un espace donné. Mais lorsque tu dois créer ton ADN à l'extérieur, la culture, tu peux pas la mettre dans une valise puis l'envoyer en Europe puis espérer que la culture va grandir. Tu peux pas l'envoyer non plus aux États-Unis. Donc, tu dois avoir le respect de dire, j'ai créé quelque chose d'unique à Montréal, mais peut-être que ce côté unique-là va être meilleur s'il y a un petit peu de Paris qui vient là-dedans, s'il y a un petit peu de LA qui vient là-dedans. Donc, je pense que on a appris que la culture créative, c'est la chose la plus importante dans notre entreprise, la chose la plus fragile. Des fois, on l'a échappé. Des fois, on a dû la reprendre, la rebâtir. On a vécu au travers la pandémie. La pandémie nous a donné vraiment pour notre rhume au niveau de la culture. Parce que quand on se ramasse chacun chez nous, devant nos écrans, c'est plus difficile. Alors, toutes ces étapes-là ont fait en sorte qu'on a dû remettre toujours sur le métier la question de la culture. Et si j'avais à préserver une chose, c'est vraiment la culture créative de Sidley, parce que c'est le savoir-faire, c'est la façon de voir les choses, la manière qu'on discute ensemble. Et puis, ça se renouvelle à chaque année, ça grandit, puis ça s'amplifie par d'autres cultures. Puis c'est ça qui fait qu'on est une plus belle gang.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Et tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, le groupe a été vendu en 2015. C'est l'agence japonaise, ou plutôt le groupe japonais Kiyu, qui a fait l'acquisition. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui les raisons derrière cette transaction-là? Ce que j'ai été capable de voir, c'est surtout pour aller chercher encore plus de croissance dans des pays, ou plutôt même dans des continents que vous ne connaissiez pas beaucoup. Mais je serais curieux de connaître un petit peu les coulisses derrière cette transaction-là.
Ben là, je vais mettre un petit peu le chapeau d'entrepreneur, parce que lorsqu'on part une entreprise, c'est le fun, on travaille fort, on réussit, mais on sait que partir une entreprise, le succès n'est jamais garanti, c'est toujours des hauts et des bas. T'sais. C'est difficile. C'est difficile au niveau personnel, c'est difficile au niveau familial, au niveau de notre santé physique aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, notre rêve était d'aller sur la Lune. Puis tu sais quoi, on s'est rendu sur la Lune, toute la petite gang dans la capsule, on a eu du fun, on a mis du duct tape, puis on est allé jusqu'au bout, tu sais. Mais une fois qu'on est arrivé sur la Lune, on a débarqué notre vaisseau spatial, on s'est dit, hey, c'était tellement le fun. Pourquoi qu'on va pas sur Mars, tu sais? Mais là, quand t'es sur la Lune, puis tu regardes Mars, tu dis, c'est un peu loin. Mais c'est surtout, je vais peut-être manquer de gaz dans ma fusée, tu sais. Puis quand je parle de gaz, je parle d'énergie physique parce que, tu sais, dans ce temps-là, on t'a rendu à la quarantaine. Question financière aussi, parce que quand tu es entrepreneur comme ça, toutes les fois que tu ouvres un bureau, tu fais quelque chose, tu vas fouiller dans ta poche, tu sais. Puis tu risques toujours plein de choses quand tu fais ça. Fait que là, on s'est dit, le voyage sur Mars va être difficile, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on serait peut-être mieux d'inviter d'autres gens avec des fusées pour venir nous propulser vers une autre mission, tu sais. Alors, c'est pour ça qu'on a pris la décision de commencer à regarder et puis de voir qui pourrait être un bon partenaire comme ça. Ça n'a pas été quelque chose de facile parce que le jour que tu décides de vendre ton entreprise, ben il y a pas de milieu. Tu vends ou tu vends pas. T'sais. Puis tu vends pas nécessairement des fois dans toutes les conditions que tu espérais. Fait que tu regardes toutes ces choses-là, tu te poses des questions, fais-tu des bonnes décisions. Mais c'est un long processus. Ça s'est très bien passé avec You. Je pense qu'on a été bénis parce que d'avoir rencontré Cube, spécifiquement Michael Birkin, à ce moment-là, il voulait, son souhait, c'était de prendre Sidley puis de l'amplifier, de prendre la culture et la créativité de Sidley, de l'amplifier. Pour moi, c'était de la musique à mes oreilles. On s'est dit, on va le faire ensemble. C'était une nouvelle façon de voir les services créatifs. Alors, on a embarqué dans cette aventure-là, puis maintenant, ça fait 6 ans, puis on a appris plein de choses. On est sorti de là meilleur gestionnaire, une meilleure tête d'entrepreneur, ça c'est sûr. Et puis, quand on est arrivé sur Mars, on s'est dit, on s'ennuie de la Terre un peu. c'est sûr, c'est du vertige quand tu arrives dans ces sphères-là, ça c'est sûr.
Mais ça a quand même grossi parce que je pense qu'au moment que la transaction a été faite, vous étiez 400-500 employés. Vous êtes maintenant 900 employés à l'intérieur de l'organisation. Donc, force est d'admettre que la transaction a porté ses fruits pour de la croissance. On n'est pas tellement loin de Mars, là.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, quand je parle de... pour moi, c'est pas juste la croissance de Sidley, parce que dans Q, il y a eu des acquisitions avec IDEO, Digital Kitchen, SY Partner, Yard, toutes des entreprises créatives super le fun, qui sont devenues des partenaires de Sidley. C'est ça qui est encore plus le fun, parce que non seulement qu'on s'est ramassé sur Mars, mais on s'est ramassé avec plein d'autres planètes pour aller se promener dans cette espèce de communauté-là, tu sais. Puis, c'est incroyable de voir comment une communauté créative se rassemble à l'échelle internationale, puis qu'on a les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes problèmes. Même des fois, on porte les mêmes vêtements, c'est drôle. Mais ce que j'aime, c'est que on a augmenté notre communauté créative, puis c'est là que c'est devenu inspirant, puis c'est devenu vraiment le fun, là, tu sais.
Puis, il y a beaucoup de gens de l'époque qui sont toujours dans l'organisation. Toi, le premier, tu es d'ailleurs rendu chairman, on l'a dit en intro. Mm-hmm. Donc, faut croire que vous avez été capable de garder cette culture-là, même avec la transaction qui a été faite, s'il y a autant de joueurs qui sont restés dans l'organisation.
Oui, ben en fait, on est chanceux parce que normalement, lorsqu'il y a des transactions comme ça, rapidement, les gens quittent le bateau. Tu sais. Notre culture, elle était très, très... serré. C'est sûr qu'il y a eu des changements. C'est sûr qu'on a perdu des gens aussi. Puis des fois, des gens qui ont quitté, des fois pour les bonnes raisons, parce qu'il y avait le goût de faire une autre carrière ou il y avait le goût de faire d'autres choses. Puis ça, c'est normal. Mais en majeure partie, puis moi spécialement en création, je suis chanceux parce que la majeure partie de mes leaders en création, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont avec moi. T'sais. Fait que on a créé notre lingo, ils savent comment on se parle et tout ça. Mais je pense que on est chanceux, c'est unique, mais c'est quelque chose qu'on cultive à tous les jours. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans ma position, la chose que je dois développer le plus, c'est l'écoute. Vraiment écouter de façon très, très particulière ces personnes-là qui ont vécu depuis des années avec nous, mais surtout aussi les jeunes qui rentrent dans notre business, qui ont des points de vue très, très, très différents. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la jeunesse, tout ce que c'est le vent frais-là qui nous amène toujours cette saveur du temps. Pour moi, c'est super important.
Puis, parlons un petit peu de ton rôle à travers les années, parce que bien entendu, tu dois plus faire les mêmes actions que tu faisais en 92 ou même au début des années 2010. Comment ton rôle en tant que chef de la création, Philippe, a évolué à travers les années? À quoi ressemble ton quotidien maintenant?
En fait, je vais mettre une image un petit peu d'un restaurant. T'sais. Moi, quand j'ai commencé, dans le fond, j'étais tout seul dans la cuisine. T'sais. Alors, je faisais les dessins, je faisais les maquettes, je faisais les textes avec Jean-François. T'sais. On était vraiment là dans... On faisait de la bouffe. Là, t'sais. On faisait de la bouffe pour tout le monde, puis on roulait. Puis tranquillement, pas vite, en faisant ça, ben on l'a dit, faut embaucher un assistant, un autre chef, un sous-chef, un saucier, quelqu'un qui s'occupe des inventaires, de la salade, toutes ces choses-là, faites en sorte qu'à un moment donné, on grandit notre cuisine. Puis, ouais. Quelques années après, j'ai dû faire une pause puis me poser la question, qu'est-ce que je cuisine ici? C'est quoi ma recette? Comment je peux donner ma recette à quelqu'un d'autre pour faire en sorte que je puisse sortir de la cuisine? Alors, c'est là que notre façon de faire en création, c'est là que je me suis mis à mettre ça sur papier. Puis là, on pourrait en parler longtemps, mais je travaille beaucoup avec toutes les triangles. Donc, toutes mes équipes sont gérées avec des triangles, sont gérées en multidiscipline. Je travaille toujours sur des formations basées sur ces principes-là. Donc, j'ai appris à manager la création et à donner ce style de management-là à tous mes chefs dans la cuisine. Tu sais. Alors, je me suis retiré de la cuisine. C'est sûr que là, je suis sur le plancher. Les clients arrivent, les tables sont là. Je veux m'assurer que la bouffe soit bonne. Je veux m'assurer que quand un client dit, regarde, je viens manger du Sidley, ça goûte le Sidley, j'aime le Sidley, je vais revenir puis je vais amener des amis manger du Sidley. Tu sais. Ça, pour moi, c'est super important d'avoir une qualité de produit créatif, une expérience aussi de travailler. Je pense que c'est important de travailler avec des clients, avoir une belle expérience avec ces gens-là. Alors, c'est plus mon rôle aujourd'hui de m'assurer que la réputation créative et la qualité de Sidley soit vraiment placé au niveau où on doit être. C'est sûr, des fois, je rentre dans la cuisine puis je suis pas content de quelque chose. Bien ça sûr. Arrive. Des fois, je suis super content puis tellement, je dis, hey, on peut-tu en faire plus? On peut-tu l'envoyer ailleurs? Mais pour moi, c'est ça. T'sais. Fait que mon travail a évolué beaucoup. C'est sûr que aujourd'hui, on parle beaucoup plus de management, de chiffres, mais ça reste que ce qu'on fait dans la vie, c'est la raison... C'est les idées, c'est la qualité de nos idées. T'sais.
Fait que, t'es le gardien un peu de la vision créative. T'es vraiment le gardien de garder cette culture créative-là forte, présente à l'intérieur de l'entreprise.
Oui, mais maintenant, il y a plusieurs personnes qui la portent avec moi parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec moi. Puis souvent, on se dit entre nous, là, des fois, on se dit « keep the brand alive » en voulant dire. Mais tu sais, on sait qu'on roule. Mais ce que j'aime aujourd'hui aussi, c'est que je commence à faire beaucoup plus de conseils d'administration, puis je me rends compte la valeur de la créativité alentour d'une table dans un conseil d'administration, c'est clé. Avant, on était habitué de voir des gens en finance, des avocats. La créativité a sa place maintenant aujourd'hui, alentour des tables, des conseils d'administration. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a 5 ans, on a parti une école de créativité qui s'appelle La Factory, que j'ai parti avec 2 ex-collègues, Hélène Godin et Marie Amiot. Pourquoi La Factory? Parce que nous, on croyait que l'importance de développer les compétences créatives pour la génération future, c'est essentiel pour le Québec. T'sais. Alors, c'est toujours alentour de ça que je me situe, toujours de la créativité. T'sais.
Mais je trouve ça tellement fantastique que le chairman de Sidley soit vraiment la personne qui est le chef de la création, parce que tu as raison, plus souvent qu'autrement, les gens qui sont les chefs des conseils d'administration, ça va être du monde peut-être qui ont plus un background finance, plus un background administratif. Bien entendu, tu dois avoir des connaissances assez approfondies à ce niveau-là, mais reste que ta fonction vraiment de base, ta zone de génie, un petit peu comme j'ai dit plus tôt, c'est la création. Et c'est intéressant que ça soit autant présent au conseil d'administration.
Oui, puis en fait, c'est important d'être bien entouré, parce que moi, je pense que avoir un bon partenaire en finance, pour moi, c'est clé. T'sais. Avoir un bon partenaire en management aussi, c'est clé. T'sais. Ce sont tous des qualités que je dois avoir alentour de moi. T'sais. Mais en même temps, ce sont des gens qui acceptent la créativité, qui acceptent aussi de travailler dans cette industrie-là. T'sais. Et puis, oui, je pense que c'est le fun d'avoir une tête de création à la tête d'une entreprise qui est orientée créativement et non seulement qu'orientée financièrement. T'sais. Une boîte comme Pixar, par exemple, une boîte d'animation comme Pixar, qui a toujours été une boîte animée par la créativité, doit continuer à vivre avec la créativité. Tu sais.
Bien sûr, c'est bien sûr. C'est fantastique. Non, j'aime beaucoup l'approche. Et peut-être, Philippe, avant de passer à des questions plus personnelles, j'aimerais savoir, là, ça fait maintenant 30 ans que Sidley existe, que tu es à l'intérieur de l'entreprise. Comment tu entrevois un petit peu le futur?
En fait, moi, je suis très excité par rapport au futur, parce que je pense qu'on vit une époque unique en créativité. Si on se compare à l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, tu sais, le streaming a amené plus de contenu cinématographique dans toutes ses formes. Spotify a complètement tout chamboulé l'univers de la musique. On vit dans un univers où la taille économique de la créativité grossit d'année en année. C'est incroyable. Puis ce que je trouve d'excitant, c'est que il y a une croissance, mais dans plein d'univers différents. T'sais. Et puis, c'est là que je trouve que la multidiscipline puis la façon de penser de Sidley, on est bien placé pour le futur, parce que il y a une croissance créative. On vit dans un monde où on doit se réinventer, où on est challengé à des cycles très, très, très rapprochés par la technologie, mais aussi par des enjeux, l'enjeu environnemental, les enjeux sociaux, les enjeux technologiques. Ce sont tous des choses qui sont en train de nous pousser, mais qui ont besoin de la créativité pour évoluer. T'sais. Fait que moi, je vois beaucoup de petits Sidley dans le futur. Je vois beaucoup d'expériences de marques qui vont passer du réel au virtuel, en créant des émotions, des histoires qui vont toucher les consommateurs. Et puis, je crois que Sidley est un point lumineux de la créativité à Montréal. Pourquoi Montréal? Fouille-moi. C'est peut-être dans l'eau. C'est peut-être notre culture. C'est peut-être parce qu'on n'est pas français, on n'est pas anglais, on n'est pas européen, on n'est pas américain. On est un mix de toutes sortes de choses. Je pense qu'on est unique à Montréal. Alors, les racines de Sidley vont toujours demeurer à Montréal, mais son rayonnement créatif va être planétaire. Ça, c'est un grand souhait.
Puis, on a parlé beaucoup de création aujourd'hui, Philippe. Je suis curieux, est-ce qu'il y a des livres de création qui ont pu impacter un petit peu ton cheminement à travers les années? Est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont fait voir les choses différemment?
En fait, c'est drôle, parce que souvent, c'est pas des livres en création qui ont fait évoluer ma pensée. Ce qui a fait évoluer beaucoup ma pensée créative, c'est des expériences créatives, travailler avec d'autres créateurs, des créateurs de d'autres disciplines. Tantôt, on parlait du Cirque du Soleil avec Guy Laliberté, mais je parlais aussi de Robert Lepage aussi. Ce sont tous des gens qui amènent une façon de voir différemment. Puis moi, je pense que la majeure partie de mes lectures sont souvent plus en science, sont souvent beaucoup plus dans des domaines connexes, parce que j'aime m'inspirer de modèles et les amener à la créativité. Et puis, Il y a plusieurs livres que je vous suggère, je vous recommande fortement. Mais c'est sûr que là présentement, là, je lis un livre sur l'aviron qui s'appelle Mind Over Water. C'est l'histoire métaphorique, en fait, des équipes d'aviron et puis comment être capable d'augmenter la performance de son équipe et puis de comment de s'élever par-dessus le bateau pour être capable de sentir toutes les petites différences qui fait que le bateau va plus vite. Par exemple, être capable de bien comprendre le ballon, l'importance de la vitesse, l'importance de la cadence. Toutes ces petites choses-là font en sorte que tu peux appliquer ça à ton équipe. Tu sais. Fait que c'est de l'influence que je vois souvent quand je vois des équipes qui, si ils ont pas de balance, ils ont pas de cadence, des fois ils ont pas assez de rapidité, ils restent trop longtemps sur les mêmes sujets. C'est des choses que j'applique comme ça. Parce que ce sont des livres qui m'ont fait réaliser des choses que j'essaie d'appliquer après ça au quotidien là, dans ce que je fais. T'sais.
Est-ce que tu es un fan de podcasts? Est-ce qu'il y a certains podcasts qui jouent dans tes écouteurs, dans ta voiture?
Ouais, je suis un accro pas mal de Daily, je peux t'avouer. Parce que de Daily, New York Times, ce que j'aime, c'est vraiment avoir des points de vue journalistiques. Surtout de ce qui se passe à l'extérieur, à l'international, d'un point de vue aussi américain, tout ça. Je trouve que c'est toujours le fun d'écouter ça. Je trouve que le format est intéressant. Il y a un autre podcast aussi que j'écoute beaucoup, c'est How I Made This. Là.
Oui.
Toute la notion d'entrepreneurs qui viennent nous raconter leurs histoires et tout ça. Je trouve ça vraiment le fun. Je pense que c'est des podcasts. Je pense que c'est, je parlais de l'univers créatif qui a explosé. Ce qui est le fun des podcasts, c'est qu'il y a tout un univers qui est venu à nous. Moi, j'ai un déficit d'attention, donc pour moi, c'est un effort de lire un livre. Mais écouter un livre, c'est un bonheur. Écouter un podcast, ah ben là, c'est le nirvana parce que c'est encore plus court, puis j'apprends des choses. T'sais. Fait que c'est toutes des petites choses, oui, que je mets dans mon chose. Un autre que je capote l'hiver passé, c'était, attends une seconde, Gladwell.
Malcolm Gladwell?
Oui, Malcolm Gladwell. Mais il y en a sorti plusieurs que ouais, je trouve bien intéressants. Lui, je l'écoutais beaucoup l'hiver passé en marchant.
Okay.
Je prenais des pauses, je l'écoutais parce que je trouve qu'il y a une approche en design d'une façon très intéressante. Qui fait en sorte que je l'utilise beaucoup dans nos processus de résolution de problèmes en création. Tu sais. Puis je me disais, c'est une mine d'or, ce gars-là. Là, présentement, je suis en train de lire une vieille affaire, c'est The Human Condition. C'est vraiment beaucoup plus la philosophie sur comprendre les comportements humains des gens. Tu sais. C'est un vieil essai des années 50, en fait. Bon, juste de réaliser que dans le fond, l'être humain a toujours été pas mal ce qu'il est aujourd'hui, tu sais.
Bien sûr.
Puis qu'on évolue. Un autre, c'est 21 Lessons for the 21st Century. Je pense que ça, tout créatif doit lire ce livre-là. Pourquoi? Parce que c'est de l'anticipation. C'est de la culture, c'est de l'anticipation. On peut voir qu'est-ce qui va s'impacter plus tard, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est le fun. Un autre livre qui est Creativity Inc., qui est l'histoire un petit peu de Pixar, tu sais. Fait que, tu sais, ça varie, tu sais. Je me promène.
C'est parfait. C'est parfait. Puis, je suis curieux, on a parlé brièvement de podcast, Philippe. Est-ce que vous avez travaillé sur des projets chez Sidley avec certaines marques pour la création de podcasts, pour la création d'un contenu audio spécifique? Parce que c'est vrai, ça devient un média tellement utilisé et tellement puissant parce que le podcasting, il y a une relation qui se crée avec l'animateur, avec les gens qui vont être à l'intérieur du podcast qui est difficile à créer avec d'autres types de médias. Et je serais curieux de savoir si Sidley, vous avez travaillé sur certains projets comme ça, si tu pouvais en parler un petit peu avec notre audience.
Oui, ben en fait, on a parti une série de podcasts Sidley. C'est drôle, c'est tous les sujets qui n'ont pas rapport. On parle de comment on classe notre lave-vaisselle, on parle de c'est quoi le meilleur score de musique dans les derniers Star Wars. C'est tous des sujets qui n'ont pas rapport. Et puis, on a du plaisir à faire ces podcasts-là, à les écouter aussi. On a un studio d'enregistrement à l'agence pour ça, pour faire des podcasts. D'ailleurs, si tu veux venir enregistrer, t'es le bienvenu. Mais t'as l'air bien équipé chez vous, mais tu seras toujours le bienvenu.
Nos bureaux sont pas mal à côté, fait que ça va être parfait, ça.
Bon, c'est bon. Puis, on a fait aussi pour des clients, que ce soit EY, Deloitte. Souvent, il y a des clients qui nous demandaient des séries de podcasts qu'on faisait beaucoup, aussi beaucoup des podcasts pour leurs employés aussi à l'interne, parce que c'est une belle manière de bâtir une culture interne et tout ça. Présentement, il y a une marque que j'aime beaucoup qui, d'après moi, devrait travailler plus dans l'univers du podcast, un peu plus. Et puis, en tout cas, ça reste à voir dans les prochains mois.
Intéressant. Puis je terminerai, Philippe, avant de te laisser filer, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail? Parce que la créativité, ça se trouve, on doit avoir une bonne éducation, bien travailler pour toujours la garder à l'affût, cette créativité-là. Comment tu fais pour toujours avoir des idées qui continuent à fuser et pouvoir peut-être même inspirer tes équipes?
En fait, moi, j'ai toujours expliqué la créativité comme une éponge. Une éponge, si elle est remplie d'eau, elle ne peut plus absorber d'eau. Alors, il faut que tu sois capable de l'écraser pour enlever toute l'eau pour qu'elle puisse reprendre et reprendre la nouvelle eau. T'sais. Alors, moi, c'est un peu comme ça. Puis je dis aussi à tous mes créatifs, des fois, il faut écraser l'éponge pour reprendre. Donc, c'est important d'être capable de travailler de façon intense, mais de se trouver des moments où on doit écraser l'éponge. T'sais. Je te donne un exemple. Ce soir, en fin de journée, je prends mon split board puis je m'en vais monter en montagne. T'sais. Pourquoi? Je vais écraser l'éponge puis être tout seul en montagne, je vais avoir ma flashlight probablement, puis il va faire noir, avoir du silence, tout ça. C'est là que toutes les bonnes idées se replacent dans ma tête. T'sais. Moi, je pratique beaucoup des sports où ce que j'appelle où l'horizon me calme beaucoup, fait que je fais beaucoup de surf, je fais beaucoup de sports qui me calment comme ça pour vider mon éponge. Puis c'est là souvent que j'ai eu les meilleures idées. C'est là que j'ai eu des moments où je me dis, ah, on devrait faire ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est une manière de se ressourcer. Et puis, c'est sûr que je dois balancer le tout dans une vie familiale parce que j'ai deux enfants et une conjointe extraordinaire qui ont besoin de moi dans tout ça. Fait que faut que je sois capable de balancer ces trois univers-là ensemble. Et puis, eux autres aussi, c'est une source de création parce que j'ai des enfants qui sont la pomme est pas trop et tellement loin de l'arbre.
Oh, OK. Donc, il y a peut-être de la relève, là. Il y a peut-être de la relève dans la famille.
Ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est tout ça. Mais, tu sais, je sens leur esprit, leur créativité. Je les vois grandir. Je suis en amour à voir ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais, fait que je trouve ça très agréable.
Fantastique. Ben, Philippe Meunier, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent, comment qu'on peut en apprendre plus sur Sidley? Est-ce que vous avez des postes d'ouvert? Je te laisserai la parole ici.
Oui, c'est sûr que vous pouvez aller voir sur le site de Sidley. On a toujours des postes qui sont ouverts. Mais surtout, ce qu'on recherche chez Sidley, ce sont des gens particuliers, des gens qui n'ont pas nécessairement un profil déterminé pour travailler en création. Puis je le dis parce que il y a plusieurs de nos grands créatifs qui se sont surpris en venant travailler en créativité. Donc, la créativité, c'est une compétence, c'est une attitude, c'est quelque chose qui se développe. Donc, si vous êtes ingénieur, avocat, cinéaste, journaliste, puis vous aimez pas votre métier, puis vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose à faire en création, ayez pas peur d'appliquer chez Sidley parce que c'est là qu'on découvre souvent des talents. Puis moi, je dis toujours que la magie apparaît en deux disciplines. Alors, je pense qu'on est là. On est là pour ça. J'adore la jeunesse. Fait que là, c'est le temps. Envoyez vos CV. Là, j'ai tellement le goût d'avoir du fresh people. Ça va être bien fun. Fait que allez voir sur Sidley. On a des postes au travers le monde. Et oui, à Montréal, mais dans tous les autres bureaux de Sidley. Et puis, tout le monde est bienvenu.
Fantastique. Philippe Meunier, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Ça a été un entretien différent des autres que je fais habituellement parce qu'on a parlé d'un sujet différent du volet de business. On a parlé de création et c'était excessivement fascinant. Je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec toi. Donc, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.
Mmh.
On continue à recevoir les plus grands entrepreneurs québécois qui ont marqué les générations. Maintenant, je vous pose la question. Qui aimeriez-vous voir sur le podcast Hypercroissance? Quel invité se doit de faire valoir son histoire? Venez m'en parler et m'ajouter sur LinkedIn, car comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.